Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Mélomanie, l'avant-dernier de la saison pour le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Comme je l'annonçais la semaine passée, un certain nombre d'établissements et de saisons musicales ont dévoilé récemment leur programmation 2020-2021. Dans notre numéro précédent, nous vous avons présenté celle de l'Orchestre National du Capitole, avec Thierry Darboubet, son délégué général. Aujourd'hui, c'est au tour d'une autre institution de la Ville Rose, sœur pourrait-on dire, puisqu'il s'agit du Théâtre du Capitole. La Scènerie toulousaine a elle aussi révélé la programmation de sa prochaine saison il y a peu, et il était tout naturel de vous la présenter dans cette émission, d'autant plus qu'elle est très belle, surprenante, bigarrée, que ce soit pour les opéras, les récitals ou les concerts. Il y a beaucoup de choses à en dire, et nous allons nous y atteler avec ceux qui ont bien voulu participer à ce numéro. Tout d'abord, mon excellent camarade Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert et moi-même, nous sommes très heureux d'accueillir Christophe Gristy, le directeur artistique du Théâtre du Capitole, qui nous fait l'amitié d'être notre invité d'honneur aujourd'hui. C'est avec lui que nous allons nous plonger dans la saison 2020-2021 de l'établissement qu'il dirige. Nous ouvrons tout de suite notre rubrique Agenda.
Mélomanie, l'agenda.
Et malheureusement, avant de nous plonger dans l'agenda, la programmation de la prochaine saison du Théâtre du Capitole avec vous, Christophe Gristy, ce sont plutôt les pages du carnet noir que nous allons feuilleter. Nous avions rendu hommage il y a quelques semaines dans cette émission à Gabriel Baquier et à Maddy Mesplé. Après l'annonce du décès de ces deux grands chanteurs, vous avez d'ailleurs organisé un concert en hommage à la soprano toulousaine hier jeudi au Capitole. Et puis, comme le sort semble s'acharner sur la scène lyrique française ces temps-ci, nous avons appris en fin de semaine dernière la mort de Nicolas Joël, qui fut, entre autres, directeur artistique du Théâtre du Capitole pendant près de 20 ans, entre 1990 et 2009, une très forte personnalité qui aura marqué le monde de l'opéra à Toulouse, mais aussi bien au-delà des murs de la Ville Rose. Vous étiez très proche de lui, alors je vais vous demander de nous parler de la relation qui vous unissait à Nicolas Joël et de vos longues années de collaboration, d'abord au Théâtre du Capitole, puis à l'Opéra de Paris.
Oui, en effet, nous avons travaillé ensemble 19 ans, à Toulouse et à Paris. Il m'a pris mon métier, voilà. Et puis le Capitole m'a pris mon métier, parce que les lieux apprennent au moins autant que les personnes, ce qu'il disait lui-même. Et évidemment, les 19 ans ont été très différents. Le travail commun à Paris était très différent du travail commun à Toulouse. Je ne dirais pas que Nicolas Joël a été mon ami. C'était en un sens bien au-delà de ça, parce qu'on a travaillé 19 ans tous les jours ensemble. Tous les jours. Donc on était, dans les faits, extrêmement proches. Mais vous voyez, jusqu'à notre dernier coup de fil il y a quelques jours, puisqu'on s'appelait vraiment très souvent, je lui ai toujours dit « bonjour monsieur ». J'ai toujours appelé monsieur, j'ai toujours vous voyé. Ça ne m'empêchait pas de me moquer de lui, d'être ironique et de plaisanter. On a beaucoup ri pendant ces 25 ans ensemble. Mais j'ai toujours tenu à l'appeler monsieur. Et c'est un grand monsieur, franchement. Personnalité hors du commun, une aura magnifique, une connaissance du métier admirable. Enfin, d'un autre temps, oui.
Oui, c'est important de préciser.
Oui, hélas. Oui, c'est un personnage qui pouvait rester assez mystérieux, d'ailleurs, en un sens. Voilà, c'est quelqu'un, évidemment, que j'ai adoré, qui a marqué ma vie de manière très profonde.
Ouais, on m'a dit que c'était toujours passionnant de discuter avec lui, pas seulement d'opéra, parce que c'était quelqu'un qui avait une culture vraiment phénoménale.
Oui, absolument. C'est ce qui nous a d'ailleurs rapprochés. Quand je suis arrivé à Toulouse, quand il m'a choisi, c'était la littérature. J'étais prof de lettres, ça lui plaisait beaucoup, parce que donc on parlait beaucoup de littérature. C'est à une époque, je vivais en Autriche, à chaque fois que je revenais à Toulouse ou à Paris, etc., j'avais toujours 3-4 livres pour lui parce qu'il me faisait faire ses courses à Vienne, dans les librairies de Vienne. Et après, c'est avec les voyages, la gastronomie, un grand gourmand, le cinéma qui nous unissait aussi beaucoup. Et je me suis jamais ennuyé avec Nicolas Joël à la divertite.
C'est ce que j'ai toujours entendu dire de lui, de ceux qui l'ont fréquenté en tout cas de près. Alors, il s'était attaché à notre région parce qu'il était parisien d'origine.
Il était parisien,
mais
absolument.
Mais même après être reparti à Paris pour diriger de l'Opéra de Paris, il avait conservé des pieds-à-terre.
Absolument.
Côté de Naïou, je crois que c'est ça. Hein.
Tout à fait. Et puis, c'est là qu'il vivait. Hein. Ouais. Après Paris, il est revenu ici. Donc, en effet, à 30-40 km de Toulouse. Et une belle maison. Et c'est là qu'il se sentait bien, oui.
Alors Robert, peut-être un mot aussi sur Nicolas Joël, vous qui êtes un habitué du théâtre du Capitole depuis très très longtemps. C'est difficile de dire la marque qu'il a pu y laisser, mais on peut imaginer qu'en presque deux décennies, elle est immense.
Oui, évidemment, je n'ai pas eu les rapports de Christophe Christie avec Nicolas Joël, mais j'étais assez proche de lui parce qu'on se voyait très très souvent et que nous discutions de voix tous les deux. Alors moi, ce que je retiens de Nicolas Joël, c'est que ses mises en scène étaient marquées du sceau d'un classicisme qui parfois font agréablement plaisir aujourd'hui à voir et à revoir. C'était un grand homme de théâtre, mais ça, Christophe Christie l'a dit et qui ne le dirait pas. Mais moi, je retiens des discussions que j'ai eues avec lui, c'est son amour des voix et cette perspicacité qu'il avait à déceler chez un chanteur au bout de 30 secondes. Hop, voilà, il savait exactement à l'instant T ce qu'il pouvait chanter, ce qu'il ne pouvait pas chanter, mais surtout, il savait ce que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans,
il serait capable
de chanter. Et il s'est rarement trompé. Après, c'était, mais vous l'avez dit, un fort tempérament, mais c'était un très bon vivant. Il était polyglotte. Voilà, pour moi, c'était un peu ce qu'on peut trouver aujourd'hui, qui ressemblait au prince de la Renaissance, mais avec une intelligence absolument incroyable.
Oui, puis c'est aussi ce qu'on appelait en France au XVIIe, au XVIIIe siècle, l'honnête homme. Voilà, alors il y a eu un hommage, donc je l'ai dit, à Maddy Mesplet hier soir, au théâtre du Capitole. Il y en aura, je suppose, un aussi pour Nicolas Joël.
Oui, absolument.
À la rentrée.
À la rentrée, cet automne. Il s'agit de le préparer
bien sûr, avec soin.
Donc ce sera cet automne, en effet.
Oui, faire quelque chose à la hauteur du personnage qu'il était. Eh bien, merci d'avoir partagé avec nous ces quelques souvenirs avec Nicolas Joël, dont nous en aurons encore la mémoire lors du prochain numéro de Mélomanie, puisque nous avions prévu de consacrer à Maddy Mesplet et Gabriel Baquier. Nicolas Joël leur sera bien sûr associé, et pour les saluer une dernière fois dans ce présent numéro, je propose d'écouter un extrait du Requiem de Fauré que le Chœur du Capitole a interprété jeudi soir lors du concert hommage à Maddy Mesplet, justement, le chœur final In Paradisum. C'est une version de l'Orchestre National du Capitole, dirigée par Michel Plasson avec le chœur Orfeon Donostiara. Le sublime In Paradisum, chœur final du Requiem de Gabriel Fauré, dans la version enregistrée en 1984 par l'Orchestre National du Capitole, avec le chœur Orfeon Donostiara, sous la direction de Michel Plasson. Nous allons rester au paradis, celui du Théâtre du Capitole, puisque nous allons maintenant évoquer sa prochaine saison. Mais avant cela, je pense que nos auditeurs voudront savoir comment s'est passée la période dite de confinement pour votre établissement et ceux qui le font vivre. Plusieurs opéras et concerts ont dû être annulés, mais il y a une chose qu'il faut porter à la connaissance du public. public, c'est que vous avez décidé rapidement de soutenir et de payer tout de même les artistes qui avaient travaillé, préparé ces spectacles qui n'ont pu avoir lieu.
Oui, absolument. Ça nous semblait évident, en fait. C'est une maison, je crois, où les artistes se sentent bien. Comment pourrions-nous avoir l'idée de les abandonner à ce moment-là? Donc après, c'était des histoires de calcul, de savoir ce qu'on peut faire sans déséquilibrer le fonctionnement de la maison, etc. Mais la logique de solidarité, qui a été vraiment tout de suite appuyée par la métropole, nous a semblé une évidence. Il y a quand même une troupe.
Oui, il y a un
esprit de troupe. Donc comment voulez-vous ne pas aider au début du confinement, c'était Platé, dans lequel il y a plusieurs jeunes chanteurs français, autant des chanteurs très confirmés, pouvez-vous dire que ils peuvent, mais c'est peut-être pas le cas, avoir une sécurité, etc. Mais un jeune artiste, c'est impossible, il a besoin de vivre. Donc ça nous a semblé une évidence, et c'est vrai qu'on a été parmi les premiers théâtres à le faire, et ça...
Oui, vous avez un peu montré l'exemple,
voilà,
quand même.
Absolument, hein. Absolument. Et bah écoutez, voilà, je pense que ça c'était bien.
Oui, parce que Robert, sauf erreur de ma part, ça n'a pas été le cas de tous les établissements de par le monde.
Non, de par le monde, non. Je pense que c'est très franco-français, oui. Ce qui s'est passé, oui. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis,
tout
en particulier, ou...
Même en Espagne,
il
n'y
a rien. Quoi. Voilà.
Les artistes en Espagne n'ont reçu aucun dédommagement.
Voilà. Donc là, c'est perte sèche et repasser nous voir un séjour.
Il faut saluer votre décision et saluer la métropole aussi est engagée derrière vous.
Hein. Oui, tout à fait.
Alors, certains opéras, certains concerts ont dû être annulés, évidemment, pour les raisons que l'on sait. Il faut quand même aussi qu'on précise que beaucoup ont été reportés.
Je ne dirais pas beaucoup, je dirais tous. Tous les projets ont été reportés aux saisons futures.
On verra Platé,
on verra Méphistophélée, on verra Toulouse-Lautrec, on verra Yennoufa, tout ça est reprogrammé.
Il fallait que ce soit dit, merci beaucoup. Alors il est temps de nous attaquer au programme de cette saison 2020-2021. Elle va commencer le 26 septembre et comme je le disais en introduction, d'une manière générale, moi je la trouve incroyablement variée, même souvent osée, on peut dire le mot. Est-ce que votre volonté, lorsque vous l'avez construite, ça a été avant tout de surprendre, de risquer, tout en faisant voyager le spectateur à travers les périodes, les formes et les grandes traditions musicales européennes?
Ça, la variété, ça me semble indispensable. Chaque saison ne peut pas couvrir l'histoire de l'opéra, hein, c'est évident. Mais quand même, j'essaie chaque saison de parcourir les siècles et d'élargir le répertoire. Il faut susciter la curiosité du public. C'est vraiment le service public de la culture. Hein. On ne peut surtout pas se cantonner à un répertoire dont on sait qu'il a du succès, etc. Évidemment, moi je tiens à ce moment, chaque année, il y ait des grands titres légendaires, parce que c'est là que le public se retrouve, et puis c'est notre devoir de présenter les grands chefs-d'œuvre régulièrement pour qu'on soit sûr que les gens puissent venir les voir et après prendre des chemins de traverse. Donc il faut en effet varier tout le temps. La surprise, c'est très important pour le public quand même.
Oui, parce que sont représentés le baroque, le romantisme, le vérisme, l'opéra contemporain, et puis à côté de ça, l'opéra français, l'opéra anglais, russe, italien, allemand, autrichien. On va voyager un peu dans toute l'Europe.
Oui, c'est vrai que c'est très européen.
Je sais pas si c'est un hasard, mais bon, c'est ce que j'ai constaté.
C'est très européen, en effet.
Il y a même le cycle de Mélodie, Journal d'un disparu de Jana Tchèque, la musique tchèque. Il y aura une très grande saison de récital, on va y revenir, il y en aura quatre. Votre avis général sur cette saison, Robert?
Moi, je suis enthousiaste par définition. Alors, pour entrer dans le détail, effectivement, Eric, vous l'avez parfaitement définie. Elle est très européenne, bien évidemment. Et puis, bon, moi, je trouve que le fait d'afficher le viol de Lucrèce, c'est une excellente chose parce que Britten, si je ne me trompe, Britten a fait ses premiers pas au Capitole avec Nicolas Joël,
oui.
Et c'était Billy Budd.
Billy Budd, oui.
Voilà. Moi, je trouve que c'est un compositeur aussi essentiel au XXe siècle que Richard Strauss, que des gens comme ça.
Alors, on va rentrer dans le détail de cette saison que vous deviez ouvrir avec une nouvelle production des Pêcheurs de Perles, l'opéra de Georges Bizet. Vous avez dû changer votre fusil d'épaule et c'est finalement Così fan tutte, le troisième et dernier chef-d'œuvre né de la collaboration de Mozart avec Da Ponte, qui va lancer votre programmation du 26 septembre au 11 octobre. Est-ce que ce sont les contraintes liées à la crise sanitaire qui empêchaient d'être prêt le 26 septembre pour cette nouvelle production des Pêcheurs de Perles?
Oui, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, je remercie par avance le public qui va nous suivre dans ce changement. L'activité a été suspendue, là je parle des ateliers de fabrication, pendant plus de 2 mois. Personne ne sait malgré tout, en septembre, ce que nous pourrons faire,
oui.
C'est-à-dire avec quelle jauge nous pourrons jouer. Je suis optimiste, mais ce sont que des suppositions. Hein. Nous n'avons pas encore de texte définitif sur cette période-là. On ne sait pas ce qu'on pourra faire sur le plateau, parce qu'il y a évidemment la question de la salle, mais il y a la question du plateau. Les Pêcheurs de Perles, c'est un ouvrage où il y a beaucoup de monde sur le plateau. On avait fait en plus le choix, qui me semble pour moi naturel, de faire participer le ballet, parce qu'il y a beaucoup de danse dans la partition. Pour moi, il est important que le ballet participe. En plus, justement, ça montre notre maison, hein, quand toutes les forces artistiques artistiques sont réunis. Donc ça fait beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'on aurait pu réunir tout ce monde dès le mois de septembre et pour répéter évidemment un mois en amont avec une œuvre pareille. Donc avec quel ouvrage puis-je mettre le plus de chances de notre côté ? Cousine n'a pas été donnée depuis une dizaine d'années, donc on peut très bien justement, ça c'est, on parle des piliers du répertoire, c'est important qu'un public qui se renouvelle malgré tout en permanence voit ces œuvres fondamentales de l'histoire de la musique. En plus, ce qui est formidable avec Cosy, c'est que les quatre chanteurs présents dans la distribution des Pêcheurs de Perles trouvent leur rôle dans Cosy, et notamment, je suis très heureux du retour à Toulouse de Anne-Catherine Gillet, qui devait chanter Leïla, et là, qui fera sa première pour faire des DJ.
Il y aura quand même une prise de rôle, donc il y aura quand même cette curiosité-là. Ouais. Donc Mathias Vidal sera Ferrando.
Exactement, Alexandre Duhamel, Guglielmo, et Jean-Fernand Setti, Don Alfonso.
S'ajoute à la distribution prévue pour les Pêcheurs de Perles, Julie Bouliane
pour Dorabella,
et Sandrine Buendia en Despina.
Exactement.
Et là, donc, ça va être une jeune chef italienne qui va diriger l'orchestre du Capitole, Speranza Scappucci.
Oui, elle est très célèbre.
Voilà,
dans le milieu. Et puis, je suis allé chercher au centre même de l'activité lyrique du monde, c'est-à-dire à l'Opéra de Vienne. Moi, je l'ai connue là-bas. Elle était encore assistante et chef de chant. Depuis, elle fait une carrière absolument mondiale. Elle est directrice musicale à l'Opéra de Liège. Et en septembre, elle devait diriger Cosy, justement, à San Francisco. Et comme San Francisco a annulé sa saison d'automne, nous avons le bonheur de la recevoir. Ça fait longtemps que je cherchais un projet avec elle, on en a un dans deux saisons, mais ça me semblait vraiment trop loin, donc je suis absolument enchanté que voilà.
Alors c'est pas une première tout à fait, je crois, au Capitole, une chef dans la fosse.
Absolument,
apparemment,
Emmanuel Haïm, pour Hippolyte ici.
Voilà, et puis comme je vous disais tout à l'heure, avant qu'on commence cette émission, lancer une saison avec une chef qui se prénomme Espérance, c'est plutôt bon signe.
Voilà. J'ai été dramaturge dans ma jeunesse, donc voilà.
Bien joué. Alors, donc, Cosy fan tutte pour cette représentation du 26 septembre au 11 octobre. Et l'opéra de Mozart sera suivi le 23 octobre par une des nombreuses curiosités de cet exercice 20-21. Pénélope, le poème lyrique de Gabriel Fauré va être donné en version concert. Pourquoi avoir choisi de programmer cette œuvre de Fauré précisément cette saison, Christophe Westy ?
D'abord, j'adore Pénélope, donc je voulais le faire.
C'est une bonne raison.
Voilà. Pénélope à Toulouse, ça me semble une évidence. C'est, même si c'est un compositeur mondial, il n'est pas loin d'ici. C'est bien.
Fauré est dans l'Ariège, hein, même voilà. Pas 5 km de Toulouse, à Pamiers.
Il y a en ce moment une très grande Pénélope qui s'appelle Catherine Hunold, qui chante maintenant régulièrement ici. Donc je voulais le faire pour elle. On le fera sans doute un jour sur scène, mais j'ai un faible, comme beaucoup de Fauréens, pour la version avec piano. On sait que Gabriel Fauré était d'abord un compositeur magnifique pour le piano, et puis c'est un compositeur de l'intime, plus que de la fresque et plus que de la pompe. Et ce poème lyrique, comme vous dites, hein, vous l'appelez ça poème lyrique, et le plus souvent, à part quelques scènes avec les prétendants, etc., donc c'est Pénélope et Ulysse, bien sûr, est une œuvre souvent très douce, et donc avec cette douceur typique de Fauré qu'on entend dans le Paradisum. C'est une tragédie lyrique. Fauré revendiquait ce grand héritage français de la tragédie lyrique, mais avec son parfum à lui, qui est cette suavité, cette douceur, cette mélancolie. Pénélope est très très présente tout au long de l'ouvrage, et avec un chant plutôt élégiaque. Mais voilà, donc c'est un grand opéra de chambre. J'adore cette version avec piano. Et en plus, c'est un projet que nous avions avec Anne Le Bozec, qui est une pianiste extraordinaire.
Ouais, merveilleuse pianiste.
Merveilleuse pianiste.
Grande accompagnatrice,
immense musicienne. Elle est là, il faut le rappeler, la directrice du département de l'accompagnement de la mélodie au CNSM à Paris. Nous avons fait déjà pas mal de projets avec elle, nous continuerons. Et ben là, c'est en effet un énorme projet pour elle, là, de jouer Pénélope au piano. Et donc autour de ce Pénélope, il y aura d'autres concerts avec des mélodies, avec
oui, un événement Mouillon, Gabriel voilà. Fauré.
Hein. Tout un week-end Gabriel Fauré, du piano seul avec Nicolas Stavi. Vous savez qu'on a donc un partenariat avec la BNF. Nous devions montrer les manuscrits de Fauré, ça n'est pas possible pour le mois d'octobre. Voilà, donc c'est un week-end Gabriel Fauré. Auquel répond au mois de février, tout début février,
Déodat de Sébrac, l'autre régional. Voilà,
l'autre régional, de stature, franchement, Déodat, c'est extrêmement important. Hein. Donc c'est aussi un immense compositeur, auquel répond donc un week-end Déodat de Sébrac en février.
Alors concernant Pénélope, donc Anne Le Bozec au piano, Le Chœur du Capitole, et puis donc Catherine Hunold, Érame Hernández, qu'on a vu à plusieurs reprises hein, au Capitole, Anaïck Morel, magnifique chanteuse aussi, Mathias Vidal qu'on retrouvera
tout
de nouveau, et Marc Mouillon qu'on
Marc
retrouvera
Mouillon,
plus tard.
Voilà, c'est la troupe, Thomas Dallier, voilà.
Alors Robert, Pénélope, il y a longtemps, vraiment longtemps, je crois Pénélope, qu'on ne l'a pas vu au Capitole.
Il y a tellement longtemps que, bon voilà, les deux dernières représentations scéniques qui ont été données, c'était la dernière c'était en 64. Alors ça tombe bien que vous passiez la parole sur le sujet parce que je vais rebondir sur une question à Christophe Christie. C'était Berthe Montmartre qui chantait le rôle titre et en 57 ans avant, c'était la jeune Régine Crespin. Et alors en fait, comme on dit très justement, c'est un opéra de chambre, un peu c'est un opéra intimiste, mis à part bon voilà, nous de scène, mais en fait, ce rôle-là a toujours été l'apanage de soprano wagnérien.
Oui.
Alors Christophe, pouvez-vous nous expliquer ?
Je pense que ça part de la créatrice, qui était Lucienne Bréval. Donc l'opéra a été créé par Lucienne Bréval, et Bréval était la créatrice de Brunhilde à Paris, et de ses... ça a été écrit pour Bréval. Donc c'est un grand format wagnérien en effet.
Voilà pour Pénélope. Alors, l'opéra suivant de la programmation 2021 est l'œuvre très rarement donnée, elle aussi, d'un compositeur né l'année où Fauré composait Pénélope. Donc, typiquement 20e siècle, c'est l'anglais Benjamin Britten dont vous proposez une nouvelle production du viol de Lucrèce. Et cette nouvelle production, vous l'avez confiée à Anne Delbé, un an après sa mise en scène de Norma dans ce même théâtre du Capitole.
Alors, Le viol de Lucrèce, c'est un ouvrage qui m'est très cher. Je suis content que Robert Pénavert se réjouisse de ce cycle Britten qui continue avec les années. Et c'est vrai que Britten, l'œuvre lyrique, est extrêmement riche. Il y a beaucoup d'ouvrages dans beaucoup de maisons de France qui n'ont toujours pas été donnés. Ce viol de Lucrèce en France, je sais qu'il a été donné à Paris, au Théâtre de l'Athénée il y a quelques années. Ça reste des œuvres très rares. Or, ce sont de vrais chefs-d'œuvre de l'opéra du XXe siècle. Ce sont des ouvrages très forts. Toujours émotionnellement, donc c'est des ouvrages dont il ne faut absolument pas avoir peur, au contraire, c'est des ouvrages qui vous parlent très directement, avec une densité du propos, une beauté musicale, une science du théâtre, vraiment, Britten est un très très grand compositeur de théâtre, donc ce sont des grands chefs-d'œuvre qu'il faut évidemment petit à petit introduire dans le répertoire, donc c'est l'histoire antique, c'est Lucrèce qui est violée par Tarquin, le tyran de Rome, et qui donc se suicide après avoir été violée. Ce qu'en fait Britten, qui compose ça juste après la Deuxième Guerre mondiale, juste après Peter Grimes, et il donne à ça évidemment une portée qu'on peut imaginer. Il était objecteur de conscience, Britten, il faut le rappeler, il a dû partir aux États-Unis pour fuir la guerre, il est rentré en Angleterre où il a eu évidemment un gros problème avec la justice, mais qu'il a voulu assumer. Et donc il a écrit ce plaidoyer pour la paix, et qui est voilà, aussi une tragédie lyrique incroyable. C'est un chef-d'œuvre, je suis très heureux de pouvoir le présenter ici, j'espère que vraiment les gens vont venir et aimer, parce que c'est une soirée extraordinaire, le viol de Lucrèce. Voilà.
Et donc Anne Delbé est mise en scène.
Si vous voulez, il faut avoir le sens de la tragédie. Je me suis beaucoup réjoui pendant le confinement que notre captation de Norma passe à la télévision, et ceux qui l'ont vu, ont vu avec Marina Rebecca le travail qui a été fait avec Anne Delbé, le moindre regard, l'expression noble du visage. Vraiment, c'est les grands codes de la tragédie. Il faut ça il faut quelqu'un qui ait ce poids-là pour le viol de Lucrèce, pour donner justement ça, cette noblesse absolue. C'est pas facile de traiter une scène de viol. Il faut le confier à quelqu'un qui va savoir, montrer ça, qui va donner du poids et de la grandeur à un tel moment. Donc, voilà, pour moi, Anne Delbé, c'était évident, avant d'être un grand opéra, c'est une pièce de théâtre très intéressante, le viol de Lucrèce, quelqu'un qui a cette formation théâtrale profonde.
Racinienne.
Racinienne, absolument. Et je pense que c'est pas mal, quand même, de donner le viol de Lucrèce à quelqu'un du sexe féminin pour le mettre en scène.
Robert, donc le viol de Lucrèce, vous vous réjouissez donc de le voir au Capitole pour la première fois.
Oui, je ne peux guère que souligner les propos de Christophe Gristy, parce que les opéras de Britten sont parfaitement abordables. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, derrière Benjamin Britten, derrière toutes ces œuvres se cache une autre œuvre. On la voit immédiatement pour si peu qu'on s'en donne le mal. Et donc, il faut impérativement voir ce viol de Lucrèce comme tous les opéras de Britten.
4 représentations du 27 novembre au 3 décembre, mise en scène donc par Anne Delbé avec la mezzo-polonaise Agnieszka Rélis dans Lucrèce.
Oui, ça je suis très heureux, c'est une splendeur.
Apparemment, oui.
Oui, c'est une magnifique cantatrice, ça je suis très très heureux qu'elle vienne. Cyril Dubois, un ténor français dont on parle beaucoup et qui chante Britten comme s'il en était le fils. Et Duncan Rock, qui est un chanteur anglais.
Tarquinius.
Tarquin. Et une jeune basse anglaise, Dominique Barbery, dont vous me direz des nouvelles.
La suite pour le premier opéra programmé en 2021, c'est un gros morceau, une œuvre majeure de l'opéra russe, Eugène Onéguine. L'opéra de Tchaïkovski va faire l'objet de 6 représentations du 26 janvier au 7 février. Il s'agit là encore d'une nouvelle production avec l'excellent baryton français Stéphane Degout dans le rôle-titre, pour lequel ce sera une prise de rôle. C'est un projet que vous nourrissiez de longue date pour lui et avec lui.
Absolument. J'ai toujours pensé que... Enfin, je me souviens en avoir parlé avec Stéphane quand j'étais à l'Opéra de Paris, et c'est un rôle dont il rêve depuis longtemps. Et je lui avais promis que nous le ferions à la première occasion possible. Et en montant les agendas, c'était janvier 21. Donc voilà, en janvier 21, Stéphane pourra enfin chanter ce rôle. Je suis très heureux, évidemment, que ça ait lieu ici. Il me semble qu'il est un interprète prédestiné de ce répertoire.
Alors, à la mise en scène, là aussi, il y aura une première, parce que vous avez choisi de confier Eugène Onéguine à Florencio, qui est une des valeurs montantes de la scène française.
Oui, absolument. C'est quelqu'un que j'ai repéré depuis très longtemps. C'est vraiment un tout jeune homme. Il doit avoir 30 ans ou à peine plus. Et c'est quelqu'un qui a fait des études de lettres, qui est normalien, et qui a vraiment le virus de l'opéra depuis très très longtemps. Et qui a monté sa propre compagnie théâtrale au Québec, qui s'appelle les Songes Turbulents, et qui fait un travail absolument remarquable. À Paris, au Théâtre de l'Athénée, il a signé l'année dernière la création d'une œuvre de Guillaume Connaisson, et je trouvais que c'était le moment de lui proposer un vrai grand spectacle, une vraie grande production. Ils se connaissent en plus avec Stéphane, ce qui est toujours très bien, parce que je pense que Florencio, si j'ai bonne mémoire, était assistant de Chéreau sur Cosi, quand Chéreau a fait Cosi à Salzbourg et à Paris. Florent devait être un de ses assistants, et donc ils se sont connus là, et ils s'aiment beaucoup, donc ça, voilà, ça me semblait bienvenu. Et autour évidemment de Stéphane, je pense, une distribution, voilà, comme on aime les faire.
Valentina Fedeneva, donc une soprano ukrainienne spécialiste du rôle, sera Tatiana. Et puis le ténor norvégien Bror Magnus Todenes sera Lenski.
Absolument.
Rôle aussi qu'il connaît très bien. Hein.
Rôle qu'il connaît très bien. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était il y a quelques années, il était tout jeune, il devait avoir 24 ans, 23 ans. Il était cover au Staatsoper de Vienne pour Lenski. Et les chanteurs du plateau m'ont dit, mais là, il y a un jeune qui vient d'arriver. Si tu entends ça, c'est incroyable. Il est bouleversant. Bah, ensuite, on l'a invité au Capitole pour Macduff. Je me souviens, le cœur était absolument ébloui en me disant, quand est-ce que vous le réinvitez? Et ben voilà, donc ce sera notre Lenski.
Robert, oui, un mot sur cet Eugène Onéguine et puis donc cette prise de rôle pour Stéphane de Gouin.
Voilà, alors d'abord, sur Eugène Onéguine, pour moi, c'est le chef de l'opéra russe. Voilà.
Je pense que tout le monde sera d'accord.
Et donc, cela fait 17 ans qu'on ne l'avait pas vu à Toulouse. 17 ans, ça fait long. Ça fait partie de ces pierres blanches dans une programmation. De temps en temps, il faut les voir, quoi. On en a besoin. Moi, je me souviens de représentations avec Yuri Mazurok ici, de très grandes représentations. Le dernier en date, alors pardon pour ces turiféraires, mais bon, m'avait pas spécialement emballé, c'était Ludovic Désier, et c'était donc il y a 17 ans, j'imagine qu'aujourd'hui il le chante certainement différemment, mais donc moi je suis absolument emballé, Stéphane de Gout, j'imagine qu'il va composer scéniquement un Onéguine certainement troublant, ambigu. Ça va pas être un bloc sans jeu de mots, comme le faisait il y a 40 ans Yuri Mazurok, qui le chante un peu à la russe. Hein. Mais ça m'intéresse beaucoup de voir, parce que c'est quand même un sacré personnage, Onéguine. Sacré personnage.
Et Degout est un autre sacré personnage.
Voilà.
La rencontre artiste, de deux personnages sur scène au Théâtre du Capitole. Alors évidemment, j'ai pas d'extrait à vous proposer de Stéphane Degout en Onéguine. En revanche, pour vous faire découvrir la voix formidable de Bror Magnus Todenes, nous allons l'écouter dans un des airs les plus célèbres d'Eugène Onéguine, l'air de Lenski à l'acte 2.
Приходит час определенный, благо.
Kuda Kuda, l'air de Lenski à l'acte 2 de Jeanne Onegin, chanté par le grand ténor norvégien Bror Magnus Todenes, l'opéra de Tchaïkovski avec Valentina Fedeneva dans le rôle de Tatiana, Stéphane Degout dans le rôle titre et donc Bror Magnus Todenes dans le rôle de Lenski, est programmé au théâtre du Capitole du 26 janvier au 7 février. Attention, ce n'est pas dans le cadre des musicales franco-russes qui, elles, auront lieu en mars-avril. J'ai employé le terme rareté tout à l'heure concernant le Pénélope de Gabriel Fauré. Je vais le réemployer maintenant à propos de Teuzone, un des très nombreux opéras de Vivaldi parmi la cinquantaine qui sont arrivés jusqu'à nous, pas le plus connu, pas le plus joué a priori. Teuzone, ça va constituer c'est le moment baroque de la saison finalement, et ça sera avec le Concert des Nations de Jordi Savall qui va le donner en version concert lors d'une représentation unique le 14 février, et c'est un retour au Théâtre du Capitole pour le grand musicien catalan et semble-t-il la première pierre d'une collaboration avec lui dans le cadre de sa résidence en Occitanie.
Oui, alors peut-être qu'on devrait pas en parler parce qu'elle n'a toujours pas été annoncée officiellement. Je pense qu'elle devait l'être ces derniers mois, et puis ce que nous avons vécu a retardé cette annonce. Bon, déjà, Jordi Savall devait se produire au Capitole cette année, ça a été
en avril,
annulé,
oui,
parce que
c'était
toujours pareil. Donc nous l'accueillons l'année prochaine. J'en suis particulièrement heureux parce que c'est un musicien que j'aime énormément, évidemment. C'est un musicien suprême, et en plus, nous savons tous qu'il a cette aura d'humanité, enfin d'humanisme, qui est très importante. C'est un musicien encyclopédique. Donc moi, je suis très heureux de savoir que dans les prochaines années, je pense qu'on aura Jordi Savall à peu près tous les ans au Théâtre du Capitole. Ça me remplit de joie.
Oui, puis il y a un lien ancien entre Jordi Savall et Toulouse. Hein, oui, très, très ancien, notamment avec les Sacs-Boutiers.
C'est avec les
Sacs-Boutiers qui devait donner un concert.
Absolument.
Le 25 avril, si je ne m'abuse. Alors, Teuzone, Robert Pénavert, je crois que non seulement ça ne vous dit rien au Capitole, mais ça ne vous dit rien tout court.
Alors, si vous voulez me coller à tout prix, mais là, vous avez réussi, voilà.
Rassurez-vous, je ne connaissais pas non plus. Hein.
Je ne connaissais même pas le titre de l'ouvrage. Je ne peux rien vous dire là-dessus. Mais voilà, mais raison de plus pour s'y précipiter. Et, j'imagine que ce Christophe Grissi l'a choisi. Vous l'avez proposé à Jordi Savall?
Ah non, c'est lui qui l'a proposé. Il l'a enregistré il y a une dizaine d'années et il voulait le refaire. Donc j'ai évidemment écouté l'ouvrage tout de suite quand il en a parlé. C'est merveilleux, c'est Vivaldi. Et donc il répétera ici, il donne un soir au Capitole et je crois que c'est le lendemain à la Philharmonie à Paris.
Comme vous l'avez dit, Jordi Savall et le Concert des Nations ont enregistré Teuzone il y a une dizaine d'années, ce qui va nous permettre d'en écouter un extrait. Il n'y avait que l'embarras du choix, et le mien s'est porté sur l'air « Si rebelle, andero, morirò ». Si rebelle, andero, morirò, extrait de Teuzone, interprété par le Concert des Nations de Jordi Savall, avec qui vous avez rendez-vous le 14 février au Théâtre du Capitole pour une version concert de l'opéra d'Antonio Vivaldi. Après cet intermède baroque italien, retour de l'opéra français du 2 au 11 mars, avec une autre grande réussite du genre, Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Là, il ne s'agit pas d'une nouvelle production, c'est la version créée au Théâtre des Champs-Élysées il y a 3 ans, mise en scène par Éric Ruff, le directeur de la Comédie Française. Marc Moyon va y reprendre le rôle de Péléas. En revanche, Victoire Bunel va interpréter sa première Mélisande.
Oui, donc c'est une coproduction en effet avec le Théâtre des Champs-Élysées. Je connaissais Éric Ruff de ce qu'il avait fait à la Comédie Française et aussi à l'Opéra de Paris. C'est un décorateur de génie, Éric Ruff, et il a fait pas mal de décors de ballet. Et il fait toujours des spectacles d'une grande poésie. C'est vraiment un maître du décor. Et en effet, je suis très heureux que ce soit l'occasion pour une toute jeune artiste de débuter ce rôle tellement difficile de Mélisande. Victoire Bunel, qui est au tout début de sa carrière. Moi, je l'avais entendu justement dans des extraits de Péléas à un concours du CNSM à Paris. Elle passait son prix. Tout le jury avait été stupéfait de sa présence incroyable. Elle avait chanté un répertoire très très large. Et déjà, si vous voulez, quand vous la voyez, vous voyez Mélisande. Elle est très grande.
Très grande, très mince, des grands
très
cheveux.
Très grands cheveux, ouais. Très longiligne. Oui, c'est Mélisande devant vous. Et elle le chante merveilleusement. Quand nous avons organisé avec un des chefs de chant du Capitole il y a un an une séance de travail, ce chef de chant qui connaît ça par cœur était absolument stupéfait de l'instinct phénoménal de Victoire dans ce rôle. Donc voilà, elle fera sa première...
Première Mélisande, donc pour Victoire Bunel. Voilà. Donc c'est Léo Houssen qui dirigera l'orchestre du Capitole dans la fosse. C'est lui qui avait dirigé La Ville Morte.
La Ville Morte, un peu comme Frank Berman au moment de Parsifal, il avait mis tout le monde d'accord. Musicien exceptionnel. Voilà, nouveau projet avec lui. Franz Josef Zelig, qui est le plus grand Arkel de notre temps, sera présent. Une autre prise de rôle avec le Golo de André Ebauer. Et ça aussi, c'est ce que disait Robert Penaver au sujet d'Eugène Onéguine. Péléas, c'est un des trois chefs d'œuvres français du XXe siècle, il faut les présenter régulièrement pour qu'une, à chaque fois, je crois que la dernière fois Péléa, c'était il y a 20 ans à Toulouse, pour qu'une nouvelle génération découvre, voit sur scène un ouvrage absolument fondamental.
Robert, peut-être un mot.
Oui, alors justement, c'était il y a 17 ans. C'était
aussi
la, ouais, c'était la même saison que Onéguine. Voilà.
C'est plutôt voilà. Un heureux hasard.
Et puis là, nous avions un Péléas, un magnifique Péléas, un baryton québécois, Jean-François Lapointe, ouais. Et nous avions un Toulousain pour chanter Golo, puisque c'était ouais. Jean-Philippe Lafont.
Merci pour ce souvenir d'il y a 17 ans, donc Péléas et Mélisande, 5 représentations programmées du 2 au 11 mars 2021. Et voilà que l'on retrouve ensuite Mozart et Lorenzo da Ponte du 2 au 13 avril pour les 6 représentations des Noces de Figaro. Pas de nouvelles productions cette fois-ci, mais un casting impressionnant. Et le chef russe Maxime Emelianichev dans la fosse orchestre pour la première fois, je crois, au Capitole.
Absolument, tout à fait. Écoutez, il a fait ses preuves à la Halle au Grain. L'orchestre l'aime beaucoup. Il dirige beaucoup d'opéras, en fait. Il dirige beaucoup de...
Oui, il fait un peu de tout. Hein.
Un peu de tout. Mais c'est vrai que la base de son répertoire, c'est les opéras de Handel. Il dirige beaucoup
d'opéras baroques.
Opéra baroque et beaucoup de Mozart. Donc, avec Thierry Dargoubet, le délégué général de l'orchestre, on a trouvé opportun de lui confier cette série de représentations. C'est très bien d'avoir pour ces œuvres-là, Speranza Scappucci pour Cosi, lui pour Noces de Figaro, des gens qui arrivent avec une fraîcheur, une jeunesse, une énergie. C'est fondamental pour Mozart, hein, le sens du mouvement et cette musique a besoin de ça. Et en effet, je suis très heureux de notre distribution, on a aussi plein de prises de rôle. Et notamment
celle de Karine Day.
Karine Day en comtesse, dont j'attends des merveilles.
Qui a longtemps été chérubin, donc là, elle sera...
Et longtemps Rosine.
Et longtemps
c'est,
Rosine.
C'est très rare qu'une Rosine, Rosine du Barbier devienne vraiment, comme dans la pièce, la comtesse des Noces de Figaro.
Robert.
J'aimerais souligner également que, mis à part le conte, c'est quasiment... une distribution franco-française,
oui, française.
Intégralement. Oui. Voilà, parce qu'il y a Julien Véronèse, il y a Carité.
Julien Véronèse en Figaro, Anaïs Constant en Susanna, et Léonore Pancrazi en Chérubin.
Le comte, lui, est américain.
Allemand.
Oui. Allemand. Alors, pourquoi il n'y avait pas de comte français ou
Je raisonne jamais comme ça. J'avais envie d'inviter, je connais Michael Nodge, donc il chantera le comte depuis très longtemps, c'est un chanteur extraordinaire, il chante beaucoup à Munich, à Zurich, donc ça fait longtemps que je voulais invité à Toulouse, il chante le conte, c'est un conte extraordinaire, je l'invite. Surtout, jamais de quota. C'est vrai que ça m'amuse parfois d'avoir plus de chanteurs français qu'on l'imaginerait, mais c'est pas pour autant que voilà, on s'interdit.
Un chef russe, un baryton allemand, et donc après, bon, effectivement, on est distribué.
Et puis Emiliano González Toro,
Alors, on va se faire un petit plaisir en écoutant l'air fameux entre tous des Noces de Figaro, celui de Chérubin, Voik et Sapete, et c'est bien sûr Éléonore Pancrazi qui le chante.
Oh.
Voi che sapete, air de Chérubin chanté par Eleonore Pancrasi, qui reprendra ce rôle lors des 6 représentations des Noces de Figaro au Théâtre du Capitole du 2 au 13 avril 2021. Le rendez-vous suivant est en fait un double rendez-vous. Il va pas avoir lieu au Théâtre du Capitole, même s'il est bien annoncé dans votre saison, ça va se passer au Théâtre Garonne, où vous avez réuni, lors d'une même représentation, La Damoiselle élue de Claude Debussy et Journal d'un disparu de Léo Janáček du 15 au 21 avril. Donc un poème lyrique français et un recueil de mélodies tchèques mis en scène par l'actrice-performeuse Sylvia Costa. Quel est le lien entre ces deux œuvres? Il paraît pas évident comme ça.
Lors de ma première saison, on avait fait une expérience formidable d'opéra au Théâtre Garonne avec Jackie O'Hallion autour d'une œuvre de Claude Vivier, mise en scène par Peter Sellars. Et Jackie O'Hallion et moi-même étions très heureux de notre collaboration. Et donc, on s'est dit que, évidemment, la scène du Capitole, pour des petites formes comme ça, est déjà trop grande. Et on s'était dit qu'on essaierait, quand on pourrait, régulièrement, de faire des formes de chambre au Théâtre Garonne, qui est un endroit magique, hein, qui est un endroit merveilleux. Le centre du projet était le cycle de Janáček, le journal d'un disparu, qui est un chef-d'œuvre absolu. Enfin, on sait quel grand compositeur d'opéra c'est. Et ce cycle est en fait un opéra miniature, puisque c'est un cycle qui raconte une histoire d'un amour malheureux. Et c'est un cycle très dramatique. Et donc, il fait à peu près 40 minutes. Donc là, c'est la version originale pour piano. Et donc, on cherchait un complément. Et j'ai suggéré la Damoiselle élue. Bon, ce sont des œuvres à peu près contemporaines, à quelques années près, qui apportent un autre parfum, un autre... Et ce qui est aussi une histoire d'amour qui a échoué, si vous voulez. Donc les deux se répondent avec un langage extrêmement différent. Et il y a la jeune fille d'un côté, de chez Debussy, et le jeune homme du côté Janáček.
Il a disparu.
Et, oui. Voilà. Et donc là, on est entre symbolisme d'un côté, de Debussy, et expressionnisme de l'autre. Et donc, avec Jackie O'Hallion, nous sommes tous les deux aussi tombés d'accord sur Sylvia Costa, qui est une toute jeune artiste italienne, qui a beaucoup travaillé avec Castellucci, qui commence une carrière très importante de metteur en scène. Et voilà. Et donc, ça permet, le Théâtre Garonne permet un format expérimental, si vous voulez, qui, moi, m'intéresse énormément. J'aime les grandes formes. Le Capitole, c'est fait pour y faire Parsifal, pour y faire des grands ouvrages. Mais je trouve vraiment toujours intéressant de trouver d'autres œuvres et d'autres formats aussi.
Donc La Damoiselle élue de Claude Debussy et Journal d'un disparu de Léo Janáček au Théâtre Garonne. 6 représentations du 15 au 21 avril, avant-dernier opéra de la saison du 25 mai au 3 juin. La Force du Destin de Giuseppe Verdi. Il va y avoir 5 représentations et ça nous permet de reparler de Nicolas Joël parce que c'est sa mise en scène qui va être reprise à cette occasion et parce que je crois que c'était un de ses opéras favoris, si ce n'est peut-être même son opéra favori. Est-ce que vous confirmez?
Oui, absolument. Moi, c'est les conversations dont je me souviens. Il adorait La Force du Destin parce qu'il y a une folie dans La Force du Destin. Il y a quelque chose de très vertigineux. Le thème, il est très connu, hein, le thème de l'ouverture et qui après se retrouve dans tout l'ouvrage, qui est vraiment, on ne peut pas l'appeler autrement que le thème du destin. C'est une espèce de chose qui s'enroule, qui roule, qui avance, et de manière un peu folle. Et vous m'avez dit, je ne pense pas trahir quoi que ce soit en le disant, qu'il préférait cette folie-là au classicisme suprême et sublime d'Othello, etc. Là, il y a un côté délirant dans l'histoire qui est complètement abracadabrante, mais qui est justement géniale parce qu'elle est abracadabrante avec des hasards impossibles. C'est une œuvre vertigineuse. Moi, je partage tout à fait son avis là-dessus. J'adore La Force du Destin. Et puis, la musique de Leonora dans La Force du Destin, pour moi, c'est le sommet, un des sommets de tout Verdi.
Donc, grande œuvre épique, sombre, mais très humaine. Alors, Robert, c'était quand la dernière de La Force du Destin au Capitole? C'était Nicolas Joël, justement?
C'était en 99, oui.
C'était donc, cette production. Reprise de la production du stock, oui.
Voilà, c'est ça, exactement.
Il y a 20 ans.
Et avec, alors c'est vrai qu'il faut quand même de très grandes voix. Il faut un ténor encore, la version qui est donnée habituellement en France est une version expurgée, puisque donc il existe d'autres versions qui sont données en particulier en Russie, qui sont beaucoup plus lourdes à chanter. Je crois il y a demi-heure de musique de plus, mais demi-heure absolument titanesque à chanter. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même raisonnablement s'en tenir à la version originale, bien sûr. Donc il faut un grand ténor, mais à la limite c'est un grand lyrico-dramatique qu'il faut, puis il faut une soprano capable de dominer des chœurs, capable de chanter, je pense que ce qu'on va entendre tout à l'heure, la Vergine degli Angeli, voilà, avec des sons filés complètement éthérés, et puis de chanter le Pace Mio Dio en terminant sur des malédictions qui font trembler toute la salle, voilà. Et puis on pourrait dire tellement de choses, mais ce fameux duo entre le baryton et le ténor, dans lequel évidemment c'est le nœud de l'opération, c'est somptueux, voilà. La Force du Destin, il n'y a pas que l'ouverture, hein, dans la Force. Il y a bien d'autres choses.
C'est Catherine Hunold qui sera donnée à Léonora. Oui. Catherine Hunold, qu'on voit maintenant presque tous les ans. Encore une prise de rôle. Il y a quelques airs très célèbres dans La Force du Destin. Il y en a beaucoup qui donnent le frisson, comme par exemple la Virginie degli Angeli, chantée ici par Catherine Hunold. Virginie degli Angeli, la Vierge des Anges, chantée par Catherine Hunold, qui sera donc donnée à Léonora au Théâtre du Capitole du 25 mai au 3 juin, lors des 5 représentations de La Force du Destin de Giuseppe Verdi, dans la mise en scène de Nicolas Joël. Et nous arrivons au dernier opéra de la saison. Il va nous ramener au début du XXe siècle et en Allemagne, puisque vous avez choisi Elektra de Richard Strauss. Pour clore la programmation 2020-2021, il y aura 4 représentations du 25 juin au 2 juillet. Ce sera une nouvelle production, une de plus, dont vous avez confié la mise en scène à Michel Faux, comme la saison dernière pour Ariane Anaxos. Est-ce que c'est le début d'une sorte de cycle, les opéras de Richard Strauss, vus par Michel Faux au Théâtre du Capitole?
J'aimerais bien. Je pense que personne ne s'en plaindra. Pour l'instant, il n'y a pas de cycle prévu, mais en plus, nous avons dans notre stock de belles productions des opéras de Strauss que nous reprendrons. Mais en tout cas, voilà, après Ariane Anaxos, on avait envie de faire en quelque sorte l'antithèse totale d'Ariane, qui est cette Elektra. Ce coup de poing unique, je crois, dans l'histoire de l'opéra, 1h40 de paroxysme, de passion échevelée, de volonté de vengeance. Tout amateur d'opéra adore Elektra, parce que ça pourrait être, on peut dire que c'est l'opéra par excellence.
On l'a pas vu depuis quand au Capitole, Robert ?
Alors, il y a fort longtemps, d'ailleurs, au Capitole, il y a très longtemps, parce que les dernières reprises se sont faites à la Lorraine. Et d'ailleurs, la dernière souvenir aussi que j'ai, c'est juste pour vous passer la perche, parce qu'on n'en a pas parlé et j'aimerais que vous l'évoquiez. C'était admirablement dirigé par Hartmut Hanschen, qui est un très très grand chef de répertoire germanique, et je crois que vous avez confié cette Elektra aussi à un très grand chef.
Oui, qui est Frank Berman, qui a dirigé donc les représentations de Parsifal en janvier dernier à Toulouse, qui a fait un triomphe dans Parsifal, je dois dire, l'orchestre l'a acclamé et le public aussi.
Le public aussi.
Donc je suis très heureux qu'on puisse le retrouver si rapidement avec Elektra, avec Richard Amerbet, qui est pour moi la plus grande Elektra d'aujourd'hui.
Grande spécialiste du rôle.
On retrouvera aussi, comme dans Parsifal, Mathias Gern pour le rôle d'Oreste.
Qui semble beaucoup se plaire à Toulouse.
Il se plaît beaucoup à Toulouse.
Je vais comprendre. Hein.
Si c'est pas du luxe, c'est pas loin.
Ah oui, c'est du luxe.
Et Violetta Urmana, la grandiose Violetta Urmana, pour le rôle de Clytemnestre.
Voilà, fin de saison, 4 représentations d'Electra de Richard Strauss du 25 juin au 2 juillet. Et avant de terminer cette émission, et puisqu'on vient de parler de Mathias Goerrn, un mot tout de même sur la saison des récitals, parce qu'elle est formidable, avec des artistes de très grand standing. Il y a 4 dates. La première, dès le 25 septembre, avec Excusez du peu, la délicieuse Sabine Devielle, accompagnée par ce grand pianiste qu'est Alexandre Tarot. Ils vont interpréter un programme de mélodies de Fauré, Debussy, Ravel et Poulenc. Le 15 octobre, nous allons retrouver la soprano lettonne Marina Rebecca, qui fut Norma un an auparavant sur la même scène, accompagné par le pianiste Mathieu Pordois, avec un programme de mélodies de Verdi, Tosti, Respighi, Rachmaninov et Prokofiev, là c'est italien et russe. Et puis donc le 18 janvier, on aura droit à l'extraordinaire duo formé pour la première fois, je crois que c'est la première,
hein, c'est la première.
Par Mathias Goerrn et le pianiste argentin Nelson Goerner. Alors là, c'est une œuvre fantastique, c'est le Voyage d'hiver, le célèbre cycle de Lieder de Franz Schubert.
Oui, c'est à la fois mon bonheur et mon job, c'est de marier deux artistes qui sont aussi des gens que j'aime beaucoup et que je connais, et au moment opportun de dire, bah tiens, si vous faisiez ça ensemble.
Ça sera le Voyage d'hiver. Bon, c'est bien voilà. Pour une première. Et enfin, le 26 mai, nouveau récital de Mélodie française pour terminer la saison avec une autre grande chanteuse française, Véronique Jean, accompagnée au piano par Suzanne Manoff. Bref, tout ça, c'est du très haut niveau. Vous nous avez gâtés et ça confirme aussi votre volonté de défendre la Mélodie et le lead au Capitole.
Oui, absolument. Je trouve formidable de faire du récital. C'est une autre écoute, c'est un autre répertoire, c'est un autre rapport avec les chanteurs également. C'était aussi une façon, vous savez, d'avoir une continuité dans l'activité entre les moments où nous faisons de l'opéra, et puis entre deux opéras ou ballets, on démonte le décor, on remonte le suivant, on répète sur scène, et là il se passe 3 semaines. Et je trouve bien que la maison reste ouverte et vivante, et le récital est une façon de continuer à l'animer.
Eh bien, on ne va pas dire le mot fin de cette émission sans écouter une des artistes programmées dans cette saison de récital. Et j'ai choisi de vous faire écouter Véronique Jans, grande interprète de la Mélodie française s'il en est. Elle chante l'invitation au voyage d'Henri Duparc et elle est accompagnée au piano par Suzanne Manoff. L'invitation au voyage, mélodie d'Henri Duparc sur le célèbre poème de Charles Baudelaire chanté par Véronique Jans, accompagnée par Suzanne Manoff, deux artistes que vous pourrez retrouver le 26 mai pour la dernière de la saison de récital. Il y a dans cette saison 5 autres récitals dans le cadre des Midis du Capitole, également les concerts de Noël du Chœur du Capitole les 5 et 6 décembre, un concert des Sacboutiers le 3 mars, avec la mezzo-soprano Monica Baccelli, et puis donc deux événements, des concerts et des expositions autour de Gabriel Fauré les 24 et 25 octobre 2020, et Déodat Sévrac les 5 et 6 février 2021. J'en oublie sans doute, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission, à laquelle je remercie d'avoir participé mon ami Robert Pénavert, le monsieur opéra de Mélomanie. Tous mes remerciements aussi à Christophe Gristy, notre invité d'honneur, directeur artistique du Théâtre du Capitole, qui a conçu avec son équipe la splendide saison 2020-2021 que nous venons de vous présenter au cours de ce numéro. Un numéro que je vais me permettre de dédier à la mémoire de Nicolas Joël, dont je ne doute pas qu'il aurait adoré assister à tous ces opéras et récitals. Pour avoir toutes les informations nécessaires et connaître le détail de la programmation de la prochaine saison du Capitole, pour vous abonner, réserver et acheter vos places en ligne, je vous invite à vous connecter au site www.theatreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité à cette émission et très bonne semaine à tous.